France Culture.
France Culture, l'esprit public. Astrid de Villaine.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'esprit public. Aujourd'hui, intelligence artificielle, comment se prépare-t-on à l'inconnu ? Nous serons avec les philosophes Gaspard Koenig et Emma Karenini, la présidente de France Digital Maya Noël et l'écrivain Jacques Attali. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Julien Moulet.
C'est d'abord une formidable révolution technologique et scientifique pour le progrès et au service du progrès. Et donc, c'est d'abord évidemment de la technologie, de la science, l'amélioration des tas de recherches, une transformation de beaucoup de secteurs. Mais notre conviction, c'est que ça doit se faire au service de l'humanité. Et donc pour vivre mieux. La deuxième chose, c'est un grand message de fierté. Par ce sommet, et grâce à la mobilisation collective, ce sont 109 milliards d'investissements privés, étrangers et français, qui sont confirmés à cette occasion. Et donc bravo à vous tous, parce que c'est votre engagement collectif.
Emmanuel Macron, le 10 février 2025, lors du sommet de l'intelligence artificielle, organisé sous la voûte du Grand Palais à Paris, en présence de nombreux chefs d'État, entrepreneurs de la tech et du vice-président américain J.D. Vance. Défendre la singularité française au sein de l'Europe face aux géants, États et entreprises qui investissent de concert des milliards de dollars dans cette révolution technologique, au point que certains prédisent l'explosion de la bulle IA, comme on parlait de la bulle Internet il y a 25 ans. Il faut repartir d'une date pour comprendre la puissance de feu de ce que les auteurs de science-fiction les plus précis avaient prévu, comme Philippe K. Dick dans La vérité avant-dernière en 1964. Le 30 novembre 2022, Sam Altman, patron d'OpenAI, lance ChatGPT aux yeux du monde entier. 3 ans et 5 versions plus tard, plus d'un milliard d'êtres humains utilisent l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Et le petit robot conversationnel reçoit 2,5 milliards de questions par jour. Pour autant d'énergie à dépenser pour alimenter la machine. Stockage, bande passante, quel coût énergétique et climatique dans cette course folle à laquelle rien ne semble résister. Et puis, les questions philosophiques. Doit-on en avoir peur? Quelles en sont les dérives? Et surtout, la machine peut-elle dépasser l'homme? Aucun consensus scientifique n'en atteste. Les fictions qui l'ont imaginé sont légion. Alors experts, ingénieurs, utilisateurs, détracteurs ou contempteurs se divisent au grand jour sur le sujet jusqu'au plus haut sommet des bureaux de la Silicon Valais. Qu'en pensent nos sociétaires du jour ? Nous avons une heure pour en discuter. Bonjour Jacques Attali.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, écrivain, ancien conseiller politique. Vous avez dirigé les travaux du livre collectif France 2040, Fragments d'avenir, qui appelle à imaginer la France de demain dès aujourd'hui chez Flammarion. Maya Noël est à côté de vous. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là, directrice générale de France Digital, le réseau des start-up françaises du numérique, notamment en intelligence artificielle. Gaspard Koenig est là ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, philosophe, écrivain. Votre dernier livre, Agrophilosophie, réconcilier nature et liberté, aux éditions de l'Observatoire en 2024. Mais surtout, je pense qu'on en parlera lors de notre conversation du jour. Ce livre en 2019, La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle, aux éditions de l'Observatoire, toujours. Et puis j'accueille Emma Karenini.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être là, agrégée de philosophie, cofondatrice de l'agence Phronimos, ancienne conseillère en cabinet ministériel. Votre dernier livre, Le Soleil, Mythe, Histoire et Société, aux éditions Le Pommier. Merci à tous les quatre d'avoir accepté le principe de ce débat. Et je commence avec vous, Jacques Attali. De quoi l'intelligence artificielle est-elle le nom ?
C'est une étape assez marginale dans une évolution très longue qui commence il y a 200 000 ans, à partir du moment où les humains se sont rendus compte que tout seuls, ils étaient trop faibles par rapport au monde et qu'ils avaient besoin de moyens d'augmenter leur force. Ça commence pas avec le levier, mais ça continue avec beaucoup d'autres outils qui donnent davantage de moyens de faire les choses avec moins de peine. D'abord pour les travaux physiques et ensuite pour les travaux intellectuels. Et pour les travaux intellectuels, ça commence avec peut-être la Pascaline de Blaise Pascal, puis l'ordinateur, etc. Donc, ce qu'on appelle intelligence artificielle, qui est un nouveau nom de ce qu'on appelait il y a encore quelques années l'intelligence sémantique et qui changera de nom bientôt, s'inscrit dans ce courant de l'artificialisation des moyens de l'humanité pour avoir davantage de moyens. La dimension du LLM n'est qu'une petite partie.
LLM, il faut préciser.
C'est l'ensemble de ce que vous avez nommé sous le nom. Enfin, vous avez.
Les langages, le fait que voilà. Les intelligences artificielles aujourd'hui soient de.
Des langages.
De parler, en voilà. Fait. Échanger.
Ce sont des choses incroyablement simplistes puisque ce sont des prédictions de l'avenir à partir du passé. Donc ce sont simplement une façon, en regardant ce qu'on sait sur des millions puis des milliards de textes, et c'est ça qui fait que la précision s'est augmentée, à partir de cette prévision, on arrive à voir quel est le mot qui suit, mais aussi beaucoup plus largement que le mot, un ensemble de textes qu'on peut prévoir à partir de ce qu'on sait du passé. Ça, c'est une des dimensions importantes qui débouche sur ce qu'on voit de façon spectaculaire avec ChatGPT et avec les autres. Et qui ne sont qu'au début de leur prédiction. Puis il y a une deuxième dimension qui est peut-être plus importante, c'est la prédiction des pannes, la prédiction des erreurs, des fuites, donc la prédiction industrielle. Ça, c'est un impact industriel considérable. C'est les machines prédictives. Sur ce qui se passe et qui va se passer avec l'intelligence artificielle, pourquoi je dis que ça n'est qu'une petite étape, c'est qu'au-delà, il y a d'abord une grande inconnue. Personne ne peut dire si la machine va dépasser l'homme. Je parlais hier avec un des plus grands spécialistes de cette question aux États-Unis qui me disait « La machine aujourd'hui est capable de penser toute seule pendant 2h27. » Nous pensons que lorsqu'elle sera capable de penser toute seule pendant 41 heures, elle sera capable d'échapper à l'homme et de véritablement créer les conditions de sa propre autonomie intellectuelle et de conscience. Dans ce cas-là, disent-ils, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va se retourner contre l'homme? Est-ce qu'elle restera soumise? Est-ce qu'elle fera de l'homme un animal domestique à son service? On ne sait pas. On ne peut pas dire qu'on sait.
C'est pas un peu un fantasme?
C'est possible. Ce que je vous dis vient d'une, puisque c'est une femme des plus grandes scientifiques qui travaille dans la Silicon Valley, qui travaille d'une façon très joyeuse, très soucieuse d'avancer. Mais moi, je suis convaincu qu'on ne sait pas et qu'il vaut mieux mettre en place des garde-fous, puisqu'au-delà de cela viennent beaucoup d'innovations qui vont venir en matière de neurosciences, car la vraie science de l'avenir, c'est pas ces machines de nature de quincaillerie, c'est la relation entre l'intelligence artificielle et la biologie dans les neurosciences, et la manipulation du cerveau qui va venir.
Emma Karenine.
Je suis assez d'accord avec cette approche de prise de recul historique sur l'intelligence artificielle. On a tendance à voir ça de manière un peu myope aujourd'hui. C'est bien de prendre du recul historique. Moi, je vois quand même moins une continuité qu'une rupture. Contrairement à vous, même si on a vécu des révolutions antérieures similaires, pour moi c'est un peu la troisième révolution de l'écriture. On a eu la première révolution de l'écriture, c'est l'invention de l'écriture, avec le corrélat, c'est-à-dire l'externalisation de la mémoire. On met sur le papier des choses et donc on n'a plus besoin de se souvenir. Ensuite, la deuxième révolution de l'écriture, c'est l'imprimerie, c'est-à-dire qu'on externalise la diffusion des idées. On permet par les livres de diffuser les idées. Et on n'a plus besoin à chaque fois par la voix de diffuser ses idées. Et pour moi, aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire l'intelligence récente, là, l'intelligence artificielle récente, c'est la troisième révolution de l'écriture, c'est-à-dire on externalise la génération du langage lui-même. Et pour moi, c'est une véritable rupture. Parce que on n'a plus besoin d'écrire, on n'a plus besoin de le faire nous-mêmes. On a des machines aujourd'hui à la surface de la Terre qui parlent de manière pertinente.
Gaspard Koenig.
Oui, alors, je reviens aussi sur cette histoire longue, mais pour dire autre chose. Quand on a entendu le président de la République, il nous a offert finalement l'illustration de ce vieux mythe rousseauiste selon lequel le progrès équivaut à la technologie. Et on a tendance à penser que voilà, les outils sont arrivés et donc inéluctablement les sociétés se sont adaptées à ces outils. On est sorti du nomadisme, on s'est sédentarisé et puis il a fallu, parce qu'on était sédentaire, créer des lois, créer des états-nations et puis tout ça finit avec l'Union européenne. Et ce mythe-là une espèce de progrès technologique continu qui entraînerait irréversiblement les sociétés humaines, a été quand même largement aujourd'hui balayé par l'anthropologie contemporaine. Et si vous lisez au commencement été de ce livre vraiment fabuleux et pour moi massif, enfin important dans notre culture, qui a été publié il y a quelques années par David Wengro et David Graeber, ils expliquent qu'en fait, quand les premiers outils sont arrivés, les outils agricoles, la charrue, le soc, l'air, etc., tout le monde ne les a pas comme ça embrassés d'emblée en disant « c'est formidable, c'est une rupture technologique, il faut y aller ». En fait, pendant des milliers d'années, les sociétés ont réagi très différemment en fonction de quoi ? De leurs valeurs, de leur imaginaire social. Donc certaines les ont adoptées, se sont sédentarisées, d'autres, voyant leurs voisins faire par schismogénèse, comme disent les anthropologues, ont fait exactement l'inverse, sont restés nomades. D'autres ont fait un peu les deux, 6 mois par an, dans la vallée du Nil par exemple. D'autres encore les ont adaptées à leur manière, ou bien les ont adoptées et puis ensuite les ont rejetés. Enfin bref, les sociétés ont maîtrisé dans notre histoire longue les outils technologiques en fonction de ce que Graeber et Wengro appellent leur imaginaire social, c'est-à-dire la manière dont ils voulaient vivre ensemble, et ils ont soumis les technologies à ces valeurs-là. Et vous comprenez pourquoi je parle de ça ? C'est qu'aujourd'hui, tout le monde braie IA, 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 parce que c'est une nouvelle technologie qu'il faudrait rattraper les États-Unis et la Chine, parce que, attention, sinon on va disparaître. Et ça, c'est le meilleur moyen de disparaître, justement. D'abandonner des discussions fondamentales sur notre humanité commune pour se mettre dans la roue des technologies, ce qui est anthropologiquement, en fait, aberrant. Et Emma citait l'imprimerie, les grandes inventions et tout ça. Mais précisément, quand nous avons fait ces grandes inventions, il y a immédiatement eu des philosophes pour maugréer. Et quand nous avons inventé l'imprimerie, quelques siècles après, est arrivé Beaumarchais qui a dit « Mais attendez, votre imprimerie est en train de ruiner mon business. Parce qu'il y a des copistes partout. Et moi, je vais plus pouvoir être payé, donc on va plus pouvoir créer. » Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après l'invention de l'imprimerie? Ben, une invention peut-être encore plus fondamentale, parce que là, c'est une invention culturelle. C'est le droit d'auteur. Et aujourd'hui, on en est là, c'est que on est largement spolié par ces intelligences artificielles qui produisent de la valeur, mais sur notre dos, parce qu'elles produisent de la valeur, à partir de la spoliation de milliards, de milliards de créations individuelles qui, du coup, ne sont plus récompensées, ne sont plus rémunérées, ne sont plus mises en valeur et sont même découragées. Et en fait, le jour où vous n'aurez plus personne qui crée du nouveau parce que les IA font des films et des livres, eh bien, les IA vont très vite se retrouver dans une sorte d'état d'entropie où elles fonctionneront sur des bases fermées et seront, comme on le voit déjà d'ailleurs, sur certains modèles, de plus en plus mauvaises parce qu'elles ne seront pas alimentées par la création de nouveaux. Et qui peut créer le nouveau ? C'est le cerveau humain, parce que le cerveau humain est fondamentalement différent d'une IA, qui est un terme absolument d'ailleurs rejeté par la plupart des scientifiques qui travaillent sur le sujet, car il n'a jamais s'agi d'imiter l'intelligence, mais simplement de corréler les résultats de l'intelligence humaine, ce qui n'a vraiment rien à voir. Notre intelligence est un phénomène avant tout biologique, qui ne se résume pas à une puissance de calcul. Et puisqu'on parle des spécialistes du sujet, Antonio Damasio, qui est à la fois un informaticien et un grand neuroscientifique, explique dans un livre qui s'appelle « Spinoza avait raison », et vous comprenez pourquoi il l'appelle comme ça, notre cerveau est le résultat de processus d'homéostasie qui viennent de millions d'années d'évolution naturelle, qui est connecté à notre environnement, à notre sensibilité, et que ça, c'est quelque chose que la machine n'essaye même pas de remplacer, qu'elle peut simplement imiter, dont elle peut faire l'illusion en corrélant des résultats. Mais je veux dire, on est dans une forme là d'aveuglement hyper technologique qui est grave d'un point de vue économique parce qu'on surinvestit dans ces matières, qui est grave d'un point de vue écologique parce que je pense que du coup on loupe l'essentiel de ce qu'on devrait faire aujourd'hui et de là où devrait se concentrer notre intelligence et notre savoir-faire. Ces technologies peuvent être évidemment fort utiles, mais il y a une espèce là de passion folle tout de même, et triste d'ailleurs, de la société qui, étant totalement déconnectée du vivant, se fascine pour l'intelligence artificielle ou du moins analytique.
Maya Noël, vous qui êtes la directrice générale de France Digital, aux côtés de toutes ces entreprises qui investissent et qui, elles, utilisent l'IA, est-ce que vous les voyez aussi ces passions tristes ?
Je ne vais pas parler de passion, moi ce que je retiens du discours de Gaspard, c'est cette notion de maîtrise et de création de valeur. On peut interroger la notion de progrès, je suis d'accord. Le fait est que la vague technologique de l'IA est là. Et la question qu'on doit se poser, c'est comment l'affronter et comment la maîtriser. Je suis aussi d'accord sur le principe de continuité. C'est pas une rupture qui est arrivée il y a 3 ans avec l'apparition de GPT qui au final n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'IA, aujourd'hui, enfin, en tout cas, le traitement automatique de données, la prédiction est possible parce qu'on a justement vécu une vague de numérisation. Cette révolution du numérique, ce web 2.0, qui a eu lieu il y a déjà 20 ans. Et qu'est-ce qu'on apprend de ces 20 dernières années? C'est que justement, on a perdu de la maîtrise parce que, de facto, d'un point de vue économique, la valeur de cette technologie-là a été captée notamment par des Américains, ce qu'on appelle des cloud providers, donc les fameux Amazon, des Google, des Microsoft.
Il faut nous traduire cloud provider.
En fait, c'est ceux qui vont stocker ces données dans ce qu'on appelle le nuage. En fait, c'est ceux qui récupèrent la donnée, tout simplement. Et cette donnée, elle est précieuse. C'est une énorme valeur aujourd'hui. C'est celle qui permet justement de créer ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle.
Et celle qui consomme beaucoup.
Tout à fait.
Pour laquelle on crée de grands centres de stockage.
Alors, il y a aussi effectivement le coût énergétique de tout. Enfin, on peut revenir sur ce débat-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ces quelques acteurs concentrent énormément de richesses parce que justement, ils ont réussi à surfer sur cette transformation technologique qui a été le numérique. Aujourd'hui, on est sur une deuxième vague qu'est l'IA. Je donne des chiffres. Concrètement, aujourd'hui, ils captent 80% de la valeur, enfin tout ce que nous, quand on a des données, d'ailleurs on a tous des données hébergées dans notre téléphone, dans nos boîtes mail, etc. La plupart d'entre elles sont stockées chez ces gros américains et captent chaque année en Europe 264 milliards d'euros de valeur parce qu'ils sont là. En fait, c'est comme si vous payiez.
Gaspard Koenig.
Mais c'est ça qui est honteux, c'est-à-dire qu'on n'a jamais accepté, sauf en cliquant sur les terms and conditions qui sont complètement léonins, on n'a jamais accepté de donner gratuitement notre force de travail.
Ça veut dire
ça qui se passe.
Ce que vous venez de dire, ça veut dire quand on accepte sur Google, par exemple, les cookies, etc.
Non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, le RGPD nous force à accepter tout partout, mais qu'on peut pas lire, on peut pas contester. Enfin, c'est grotesque, en fait. C'est les conditions juridiques qu'on est censé. Mais ce que je veux dire, je rends la parole tout de suite, c'est que cette valeur, ces centaines de milliards, sont créées par nous. Sont créées par nous, gratuitement, parce que nous les cédons sans véritablement le savoir à des plateformes qui, elles, le monétisent.
C'est ce que vous disiez, Maya Noël.
C'est exactement ce que je veux dire. C'est que eux ont réussi à, en fait, ils se sont, eux aussi ont vu cette vague technologique arriver de la digitalisation. Sauf que eux, ils l'ont surfé. Là où nous, on n'a pas décidé de prendre la vague.
Ils n'ont pas surfé, ils ont volé.
Vous voulez dire qu'il y a un enjeu de souveraineté?
Il y a totalement un enjeu de souveraineté.
Individuelle,
et je pense aussi qu'elle se construit collectivement. Concrètement, si on devait imaginer pour un peu mieux expliquer à l'auditeur qu'est-ce que ça veut dire, c'est comme si, en fait, vous êtes en France, et puis tout d'un coup, un pays étranger décide de venir installer une route chez vous, qui va être la route que vous allez emprunter tous les jours. Et non seulement vous allez emprunter, mais vous allez lui donner de la valeur, parce que sur cette route, vous allez mettre des magasins, vous allez mettre des hôpitaux, et vous êtes des fleurs, peu importe ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, vous allez passer dessus en permanence, et c'est exactement ce qui se passe. C'est que eux, en face, au début, cette route était gratuite, et en fait, ils vont vous mettre des péages. Non seulement ils vont vous mettre des péages, mais quand vous allez installer une boutique autour, ils vont vous faire payer le terrain. Et donc, effectivement, vous vous sentez dépossédé, et cette route, vous êtes obligé de l'utiliser.
Mais qu'est-ce que vous voulez demander, finalement, avec toute cette démonstration, Maïa?
Toute cette démonstration, ce que je veux dire, c'est que il y a eu le numérique. On n'a pas su créer une politique industrielle au niveau européen pour créer les infrastructures qui allaient autour du numérique et faire en sorte que la valeur économique soit captée par nous, Français et Européens.
Ce qu'on sait faire, en revanche, ce sont les règlements. On vient de faire un règlement européen sur l'IA qui sera en application en 2026.
Tout à fait. Ce règlement, pour moi, il a un peu une sensation de... C'est un peu doux amer. Je trouve qu'il est assez intéressant philosophiquement, ce règlement. Qu'est-ce qu'on a voulu faire avec un IA Act en Europe? C'est de dire qu'il faut réguler l'usage. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec de l'IA. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Le sujet, c'est que ça ne peut pas ne pas être accompagné d'une politique industrielle pour nous-mêmes créer une IA française européenne, parce que ce sera le seul moyen de maîtrise totale. En fait, c'est comme si vous disiez, voilà, vous avez cette grande vague qui arrive sur vous, vous voulez créer un barrage, mais vous créez un barrage avec des bouts de bois, là où il faudrait vraiment penser, d'un point de vue industriel, à créer un énorme barrage, qui plus est, qui crée de la valeur, parce qu'on peut y mettre, par exemple, faire de l'électricité avec un barrage. C'est ça que je veux dire.
Jacques Attali.
Premièrement, on n'a pas résisté à la sédentarité. Le nomadisme a disparu pratiquement entièrement. Il est en train de revenir. J'avais écrit un livre entier là-dessus. L'homme commence nomade, devient sédentaire, et il est en train de redevenir nomade, pour des tas de raisons. Et le fait de la dynamique de l'individualisation y pousse profondément. Deuxièmement, les droits d'auteur n'ont jamais été une nécessité pour créer. Il y a eu de grands créateurs avant... Grands créateurs avant, de très grands créateurs avant, et il y en aura après, car les droits d'auteur sont une parenthèse dans l'histoire humaine. On voit bien ce qui se passe avec la musique, qui a toujours été en avance dans beaucoup de domaines, et l'évolution de la musique avec l'intelligence artificielle arrive à peu près à couvrir tous les champs de notre discussion d'aujourd'hui. D'abord, Il y a beaucoup de musique artificielle qui commence à être faite, mais qui n'est qu'un mélange de musique existante, dans lequel il y a des petits bouts de quelque chose, mais ce n'est, comme je l'avais dit, jamais créatif. Comme je l'avais dit, c'est pas créatif, est-ce que ça mélange des choses qui existent. Il y a des tentatives pour faire en sorte qu'on donne un peu de rémunération à ceux qui sont à l'origine d'une note, de deux notes, de trois notes, mais ça marche pas et ça marchera pas. Il y aura de très nombreuses formes de création musicale qui déjà arrivent par des machines, qui sont pas si mal par rapport à la banalité de la création humaine par ailleurs. Et malgré tout, la véritable création reste humaine. Elle est dans le fait que de plus en plus de gens vont non plus écouter de la musique, mais en faire pour eux-mêmes. Et c'est peut-être à la fois une chance et une nouvelle perplexité. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une situation où les gens vont vouloir écouter leur musique, plus que écouter la musique des autres. Et les outils permettent de faire des choses extraordinaires pour soi-même. Et donc de retrouver la créativité, d'en remettre dans le système, mais en n'écoutant plus la musique des autres. Ce qui crée un univers de zombies juxtaposés, qu'on voit en musique, mais qu'on voit dans d'autres domaines où chacun se trouve de plus en plus solitaire. Ça, c'est le grand danger de nomade solitaire. C'est le grand danger de l'évolution actuelle. Le dépassement suppose évidemment des règles pour maîtriser cette phase de l'intelligence, de l'utiliser au mieux pour l'efficacité industrielle, d'éviter la folie du gaspillage d'énergie et du gaspillage de l'eau, parce qu'une des grandes, un des grands gaspillages de cette industrie, c'est l'eau. Or, l'eau est une des ressources les plus rares et le sera de plus en plus. Donc, on va dans le mur en klaxonnant et on aura une catastrophe. Est-ce qu'elle sera une catastrophe écologique? Est-ce qu'elle sera une catastrophe politique par cette juxtaposition de solitude? Ou est-ce qu'elle sera une occasion de dépassement? Je n'en sais rien.
Et vous, l'économiste Jacques Attali et ancien conseiller de François Mitterrand, donc vous ne souscrivez pas à ce que nous dit Maya Noël. Si vous étiez aujourd'hui aux manettes, vous ne diriez pas allons-y, embrassons.
Non, je dirais.
Embrassons cette technologie et mettons-y tous les moyens.
Il faut une réglementation mondiale qu'on n'arrivera pas à mettre en place. Mais il existe, il y a des textes qui ont été écrits par l'UNESCO, par les Japonais, par l'OCDE, par beaucoup d'organisations d'une réglementation internationale. La réglementation européenne est très intelligente. Mais les Américains veulent la faire tomber. Une des phrases géopolitiques majeures des dernières années, c'est celle qu'avait dite M. Vance avant même l'élection présidentielle, quand il a dit « Si vous, Européens, vous ne laissez pas M. Musk et l'intelligence artificielle déferler sur l'Europe, nous nous retirons de l'OTAN. » Voilà le chantage. Et voilà pourquoi les Européens ont intérêt à mettre en place immédiatement des moyens d'une puissance politique pour échapper à la tyrannie américaine renouvelée.
Emma Karenini.
Alors, ça paraît un peu prosaïque de défendre une position purement géopolitique ou économique, mais je suis assez d'accord avec Maya Noël sur le fait que on n'a pas simplement pris du retard, nous, Européens. On a manqué beaucoup de trains technologiques, le cloud, les microprocesseurs, les réseaux sociaux, maintenant c'est l'IA. Et en fait, c'est pas qu'une question d'hégémonie technologique. Pour moi, c'est aussi une question de dépendance vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire que l'IA, c'est une technologie qui s'est installée dans le quotidien des gens. C'est l'adoption technologique la plus rapide de l'histoire. On a 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, ce qui n'a jamais été vu. Donc, de fait, on est face à cette réalité technologique, qu'on le veuille ou non. Donc, la question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait en tant que politicien, en tant que citoyen? Qu'est-ce qu'on fait maintenant que l'IA est dans nos vies et dans la vie des gens? Aujourd'hui, si on laisse s'imposer l'hégémonie américaine en termes de GPU, de puissance de calcul, on va être complètement sous la domination américaine.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre profil, Emma Karenini, c'est votre vision sur l'éducation nationale. Est-ce que les enfants, on le voit, les adolescents, utilisent de plus en plus ces technologies-là? Quels sont les dangers? Ou au contraire, faut-il les accompagner dans ce changement?
De fait, aujourd'hui, on peut dire que l'IA, c'est la technologie qui a franchi les barrières de l'école le plus rapidement possible, enfin le plus rapidement par rapport aux autres technologies. L'école a toujours exercé un droit de veto d'entrée sur les technologies qui essayaient de rentrer, le livre, la calculatrice, l'ordinateur. À chaque fois, on contrôle. Aujourd'hui, l'institution, elle est assiégée, c'est-à-dire que les élèves, ils ont le smartphone dans la poche, ils l'utilisent et ça modifie de manière spontanée et endogène d'ailleurs les méthodes pédagogiques des professeurs. On a beaucoup de professeurs aujourd'hui qui donnent plus de devoirs maison parce que, évidemment, ils n'ont pas envie de lire 50 fois la même version de ChatGPT, ça n'a aucun intérêt.
Même si ce n'est jamais la même version, je précise.
Non, c'est jamais la même version, évidemment, mais c'est toujours à chaque fois ChatGPT. Donc on a ce premier constat que l'école est assiégée de l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait au niveau politique? Il faut peut-être tirer les leçons. Je pense qu'un des points importants aujourd'hui, c'est que l'IA générative a automatisé des compétences discursives, des compétences de composition d'idées, de synthèse, c'est-à-dire les compétences qui sont valorisées aujourd'hui dans le système scolaire, notamment dans le système scolaire français.
Le plan, la dissertation.
Voilà, les filières générales. Aujourd'hui, c'est ce qu'on valorise dans la sélection. Et aujourd'hui, est-ce que l'école va continuer à sélectionner les élèves à l'examen sur ses compétences? On a besoin de faire une note de synthèse pour entrer à Sciences Po. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ce bouleversement de la hiérarchie des compétences?
Maya Noël.
Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que là, on a ce débat et on parle effectivement de ChatGPT. Moi, ce que je dis justement, c'est qu'il faudrait qu'on soit capable de parler peut-être du chat de Mistral. C'est-à-dire qu'on a ces intelligences aussi en France.
Qui nous demande d'ouvrir un compte, contrairement à ChatGPT. Et ça, moi, je m'y refuse.
Je suis d'accord. Après, il faut savoir que les choses gratuites ne sont jamais véritablement gratuites.
Donc, Caspar Koenig, vous utilisez les IA malgré toutes vos critiques.
Moi, j'essaye de temps en temps quand même pour comprendre pourquoi c'est... Alors d'abord, j'avoue que c'est souvent très puissant, notamment pour... En tout cas, pour ma part, pour faire des recherches. C'est-à-dire, c'est une sorte de super Google. Et quand vous êtes coincé sur Google parce que vous êtes en page 50 et que vous n'en pouvez plus, c'est vrai que ChatGPT, lui, il a déjà regardé l'ensemble du Google pour vous. Il vous donne des pistes. Mais alors, il faut absolument aller voir ensuite le lien ou la source parce qu'il faut vraiment se rappeler, épistémologiquement parlant, qu'on ne peut croire qu'une source qui est fiable. Or, ces IA-là, en fait, elles brassent tout et n'importe quoi. Sur des sujets que je connais très bien, elles ont fait des erreurs colossales et avec un ton péremptoire absolument extraordinaire. Donc, ça peut effectivement donner des pistes, mais je les utilise, je sais pas, 3 fois par semaine. Donc, avec une grande modération et en sachant ce que je fais. Mais la manière dont elles sont distribuées aujourd'hui, mises dans les mains du grand public, me semble extrêmement dangereuse. Je voudrais revenir une seconde sur le droit d'auteur, parce que c'est un sujet quand même extrêmement important. Si des gens écrivaient avant le droit d'auteur, c'est parce que c'était des aristocrates, des moines ou qu'ils avaient des mécènes. Si moi, je peux aujourd'hui écrire... N'étant pas fortuné de naissance, n'étant pas titré, c'est justement parce qu'il y a des droits d'auteur qui me permettent de vivre de mes créations. Et je trouve qu'au-delà du point de vue monétaire, d'un point de vue philosophique, justement d'une société qui essaye de mettre en valeur la créativité individuelle, la singularité de la personne humaine, c'est extrêmement important de pouvoir se voir attacher l'origine de sa création. Et c'est bien ce que je redoute, c'est pour ça que mon livre s'appelait « La fin de l'individu » dans cette généralisation des intelligences artificielles, c'est que finalement, tout le monde suit des circuits qui sont de plus en plus collectivisés, et la singularité d'un individu, petit à petit s'étiole, et la notion même de libre-arbitre est aujourd'hui mise au tapis, y compris d'ailleurs dans des discours scientifiques aux États-Unis. La deuxième chose sur l'école, c'est que je pense que le sujet est beaucoup plus grave. Enfin, l'idée que l'école va se moderniser parce qu'on va mettre des tablettes aux enfants, que les profs vont devenir des IA, est une idée folle et une idée grave. Et d'ailleurs, on voit bien que les pays qui s'y sont mis les premiers, aujourd'hui, y reviennent.
Je suis pas sûr qu'on soit en train de dire ça non plus.
Il y avait on l'entend beaucoup en tout cas. Il y avait un grand article dans The Economist qui montrait que en Finlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, on revenait au crayon et au papier. Aujourd'hui, nous sommes. Enfin, je suis peut-être un peu alarmiste, mais après tout, c'est le rôle du philosophe dans les étoiles. C'est que nous sommes à risque de désalphabétisation. Et on le voit avec les enfants qui arrivent en CP, en CM1. Qui n'ont plus la capacité de concentration nécessaire pour apprendre correctement à lire et à écrire. On le voit dans les statistiques de literacy aux États-Unis qui sont effrayantes. 21% des adultes américains sont considérés comme illiterate et 130 millions ne peuvent pas lire une histoire simple à leurs enfants parce que tout ça est délégué à des écrans et qu'on a finalement, on n'a même plus besoin de pouvoir lire une histoire à ses enfants. Et que là, puisqu'on parlait du progrès, je signale ce risque qui n'est pas forcément inhérent aux IA qu'on pourrait maîtriser, mais ce risque de régression culturelle profonde, et ce qui s'est passé en Roumanie, je finis par là, était absolument fascinant quand on a annulé l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 15 jours de campagne TikTok, un candidat d'extrême droite poussé par la puissance de financement russe est passé de 2% dans les sondages à 25% pour arriver en tête de l'élection. Et que par 15 jours de campagne TikTok débile, et que l'élite a dit, ah ben dans ce cas-là, non, on peut plus en fait, on peut plus se fier au vote de gens qui réagissent à ce point aux réseaux sociaux. Et donc, on a annulé l'élection. Et c'est le risque, et ce risque, c'est le risque aujourd'hui de segmentation cognitive, où une certaine élite se dit, bah, les gens qui le contrat de la démocratie, c'était qu'on éduquait tout le monde, que tout le monde allait vers une connaissance partagée et de plus en plus sophistiquée. Si on va en sens inverse, et ben on va revenir en arrière aussi sur la démocratie.
Jacques Attali.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Gaspard. D'abord, je rappellerai ce que j'ai dit tout à l'heure. On discute ici que d'une partie de l'intelligence artificielle. Oui. Il y en a une beaucoup plus fondamentale, c'est l'intelligence artificielle industrielle. C'est celle qui permet aux machines d'être plus efficaces, de prédire les pannes, de prédire les fuites dans les réseaux, de produire tout ce qui peut être prédit, qui même avec des conséquences sociales énormes, mais une dimension industrielle très, très efficace, et qui d'ailleurs est surtout valorisée et efficace en Chine, parce que la Chine a beaucoup moins de contraintes d'utilisation des données que personne, y compris les États-Unis, et a et même de contraintes sur les risques sur la vie humaine. C'est pour ça que les voitures autonomes sont beaucoup plus vite mises en place en Chine qu'ailleurs dans le monde. Deuxièmement, le vrai risque, c'est certainement celui-là. C'est-à-dire la perte d'usage du cerveau humain. Pourquoi ? Parce que je disais tout à l'heure que la grande tendance, c'est de se doter des moyens de faire mieux avec moins d'efforts. Mais si on fait plus d'efforts du tout, alors on n'a plus ce n'est plus un surplus, c'est un substitut, et l'esprit est mort. Prenez notre téléphone aujourd'hui. On n'a plus besoin de savoir lire, parce que la machine lit pour vous. On n'a plus besoin de savoir écrire, parce que la machine écrit pour vous. On n'a plus besoin de savoir compter, parce que la machine compte pour vous. On n'a plus besoin de savoir des langues étrangères, parce que la machine traduit pour vous. Donc, les savoirs de base, qu'on appelait le quadrivium dans le vieux langage de la Sorbonne, n'est plus nécessaire. Or, il est, si on n'a plus les moyens ou la nécessité de développer la gymnastique du cerveau, on va disparaître, et toute la culture va disparaître. Donc, il est très important. Je ne sais pas si ce sera par l'école, parce que je crois que l'école est elle aussi une parenthèse dans l'histoire de la transmission du savoir. Il y aura d'autres façons de transmettre. Mais si on n'entraîne pas le cerveau à développer des activités autrement que par des nécessités qui ne sont plus là, écrire, savoir, lire et compter, alors l'humanité est promise à un avenir catastrophique.
France Culture, l'esprit public, Astrid de Villene.
Merci d'écouter France Culture en ce dimanche matin. Nous sommes toujours en compagnie de Jacques Attali, Maya Noël, Emma Karenini et Gaspard Koenig.
So what was it like being married?
C'est comment d'être marié?
Well, that's hard for sure.
C'est pas facile.
But there's something that feels so good about.
Et parfois c'est très beau de partager sa vie avec quelqu'un.
How do you share your life with somebody?
Comment on partage sa vie avec quelqu'un?
Well, we grew up together.
On a grandi ensemble.
I used to read all of her writing all through
her
master's.
J'ai lu tout ce qu'elle a écrit jusqu'à son doctorat.
She read every word I ever wrote.
Elle a lu tout ce que j'ai écrit.
We were big influence on each other.
On s'est beaucoup influencé.
I still find myself having conversations.
J'imagine encore que je lui parle.
Hashing old arguments.
Je ressasse nos vieilles disputes.
Defending myself against
something. Je me défends de ses reproches.
Yeah, I know what you mean.
Je comprends. L'autre jour, j'étais vexée que tu dises que j'avais jamais rien perdu.
Excuse-moi.
Non, c'est pas grave. Je me suis aperçue que j'y pensais sans arrêt. Et puis j'ai compris que tout ce que j'avais retenu, c'était que j'avais un problème. J'étais en train de me raconter une histoire où j'étais inférieure à toi. Intéressant, non? Le passé, c'est une histoire qu'on se raconte.
Un extrait du film Her de Spike Jonze, sorti en 2013. Théodore Twombly, le héros interprété par Joaquin Phoenix, tombe amoureux de la voix de son intelligence artificielle, qui n'est autre que celle de l'actrice Scarlett Johansson, ici doublée par Juliette Devaux et Emmanuel Laurentin. C'est impressionnant, ne trouvez-vous pas, tout ce que les fictions ont pu prédire dans ce domaine? Emma Karenini.
Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est un film qui parle d'IA, mais contrairement à d'autres films dans l'histoire du cinéma, comme Terminator, comme...
James Cameron en 1984.
Comme L'Odyssée de l'espace ou Black Mirror, ici l'IA, c'est pas une menace, c'est figuré dans un futur cotonneux, confortable. Et c'est vraiment l'IA générative, telle qu'on l'a vécu et telle qu'on a vécu ensuite dans les années qui ont suivi. C'était vraiment totalement préfigurateur. Et sur le détail après de l'épisode que vous avez diffusé, ce qui est intéressant, c'est que il témoigne sur sa relation avec son ex. Il dit qu'elle a eu une énorme influence par les conversations, par les textes qu'elle écrivait, etc. C'était vraiment une relation très langagière et à aucun moment il parle de sa relation charnelle avec elle. Comme s'il y avait un terrain un peu propice déjà à la relation amoureuse qu'il va avoir avec l'IA dans le film. Comme si ça préparait l'amour avec un LLM.
On pourrait citer également, je l'ai revu récemment, le film de Steven Spielberg, AI, intelligence artificielle, en 2001, où les humains tombent amoureux, là pour le coup ça peut être charnel d'ailleurs, de robots humanoïdes. Jack Attali, comment expliquez-vous qu'on ait aussi bien anticipé ce qui nous arrive aujourd'hui? Et est-ce que ça vous inquiète, un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais qui est très présent dans les débats autour de l'IA, la conscience? Est-ce que ces IA, comme on l'entendait là dans l'extrait avec Scarlett Johansson, ont une conscience, peuvent tomber amoureux, être tristes, avoir des sentiments comme nous?
D'abord, moi je suis un grand fan de science-fiction, j'en lis et j'en écris, et je crois que la littérature permet d'explorer le champ du possible, comme la musique, beaucoup plus que la matière et que la société. Donc il est normal que l'imagination humaine avance plus vite que le réel. On pourrait citer Barjavel, qui est un auteur oublié, qui a dit beaucoup de choses incroyablement prémonitoires, et bien des auteurs, à commencer par ceux début du XXe siècle, commençons par Brave New World, qui était un roman fondamental, et tellement d'autres. Je citerai Limbo, je citerai d'autres qui ont été des romans majeurs qu'on n'a pas assez lus. Donc il faut lire la science-fiction, parce que ça explore le champ des possibles. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si les grandes armées du monde utilisent des auteurs de science-fiction pour imaginer les scénarios divers auxquels ils pourront être affrontés, beaucoup plus que la simple réflexion de quelques généraux 5 étoiles, qui sont certainement très utiles et respectables pour d'autres dimensions. Je pense que le grand risque aujourd'hui, c'est bien celui-là. C'est d'être dépassé par l'imaginaire, avec un imaginaire qui croit que la conscience est quelque part, et qui recherche toujours la réponse à la même question, qui est deux questions, toujours les mêmes, faire la même chose avec moins d'efforts, et devenir immortel. Parce qu'au fond, l'artificialisation qui consiste à doter d'objets pour faire avec moins d'efforts, ça consiste aussi à tenter de créer des conditions de devenir un objet. Parce que chacun d'entre nous autour de cette table, on va mourir, mais les micros vont pas mourir, ils seront toujours là. Donc, si nous étions un objet, nous ne serions plus mortels. Et donc, l'idée de transférer notre conscience dans un objet, c'est une façon fantasmatique, naïve, ridicule, mais dynamique, profonde, de penser que nous pourrions ainsi atteindre à l'immortalité. C'est ce que cherchent Peter Thiel et quelques autres autour de leur fantasme. L'immortalité par le transfert de la conscience qui reste aujourd'hui un grand mystère. C'est pour ça que je dis que les grandes sciences de demain, c'est les neurosciences. C'est celles qui vont nous permettre d'approcher de près ou de loin ce qu'on appelle la conscience.
Gaspard Koenig, êtes-vous inquiet que les IA soient à terme des simulacres de conscience?
Ce que dit Jacques Attali est très pertinent. Je trouve que l'IA, l'ambiance culturelle autour de l'IA est très théologique au fond, très régressive. On cherche l'immortalité. On imagine une espèce de créativité humaine ex nihilo une fois qu'on sera débarrassé des petites tâches. Tout ça est très 18e, 19e. Enfin, on a l'impression que culturellement, c'est quelque chose au fond d'assez régressif où on se retrouve dans un... On était entré au XXe siècle dans un monde d'après Dieu, dans un monde qui se réconcilie avec notre finitude, qui essaye de se réconcilier avec l'humus, la terre, le sol, qui comprend d'où on vient, où on va, qui se remet dans la chair humaine après 2000 ans de judéo-christianisme. Et quelque part, l'IA nous rebascule dans un monde très abstrait. Ce que disait Emma est extrêmement pertinent, c'est parce que on est déconnectés les uns des autres et que nos relations sont finalement très souvent très analytiques, ensuite on va très rapidement basculer vers un ami IA. Alors que si nos relations étaient, si notre mode de vie était plus en chair, plus connecté avec son environnement, mais aussi avec les autres, finalement on serait beaucoup moins tenté
par cette technologie qui contribue à nous abstraire d'un monde qui nous rend mal à l'aise. Et les chiffres sont terribles. On voit aux États-Unis, je sais plus si c'est 20 ou 30% des gens dont le meilleur ami est une IA. Et j'en reviens à ce que vous dites. Oui, c'est une illusion. C'est absolument une illusion. Platon dans le Sophiste, il dénonce les sophistes comme des créateurs d'illusions. Ils font des discours qui sont pas vrais, qui ne s'appliquent pas à la chose. Là, c'est une illusion d'une personne avec une conscience, une illusion qui est fabriquée. D'ailleurs, vous allez sur ChatGPT, il vous tutoie. C'est ce qui moi m'insupporte à chaque fois. On n'a pas gardé les cochons ensemble quand même.
Vous lui avez dit.
Bon, je lui ai dit, essayez de repasser vous vouvoiement, mais il n'y arrive pas. Au bout de quelques temps, il repasse au tutoiement. C'est plus fort que lui.
J'ai fait la même expérience.
Voilà.
Vous aussi, Jacques Attali, vous n'aimez pas qu'on vous tutoie une IA.
Dans la vie privée, publique, non plus. Donc je dis vous à tout le monde. Et avec la machine, j'insiste à chaque fois, je réponds vous.
Mais je pense qu'on ne devrait jamais s'adresser à une machine. Vous savez, à un moment donné, Amazon avait Alexa. Et Alexa était la petite boîte qui vous répondait. En fait, elle captait surtout vos données. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et il s'était aperçu que les enfants insultaient constamment Alexa, parce que c'était drôle. Et donc, Alexa avait enregistré ces insultes et finissait par les déverser aux utilisateurs. Et donc, Amazon avait mis, d'un point de vue, c'était une logique purement commerciale, une règle qui était le thank you note, ou je ne sais plus comment ça s'appelait exactement, qui pour débloquer Alexa, il fallait être poli avec Alexa, il fallait dire s'il te plaît Alexa. Et en fait, je pense qu'anthropologiquement, c'est la pire chose à faire. Il ne faut jamais dire s'il te plaît à une machine, il faudrait jamais s'adresser d'ailleurs à la seconde personne à une machine, il faut la prendre exactement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour une machine, quelque chose d'absolument neutre. On devrait trouver un nouveau pronom pour la machine, comme on a trouvé Yel pour le genre, on devrait trouver, je ne sais pas, machine, ma, peut-être, voilà. Et surtout ne pas, et ça aussi, c'est une régression, je parlais de la théologie, c'est de l'animisme. C'est redonner une âme à un pur objet qui n'est jamais qu'un réseau de câbles quelque part dans un data center. Et c'est ça qui est régressif. Voilà.
Maya Noël.
Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a un véritable enjeu quelque part à démystifier ce qu'il y a et à regarder en face ce que c'est, à savoir effectivement des données, des algorithmes. Après, ce qui est intéressant dans le film Heure et dans ce que ça représente aujourd'hui, c'est que ça peut être aussi vu comme une opportunité. Si aujourd'hui des personnes décident de se confier à une IA parce que quelque part ça les aide à remplacer un psychologue ou peut-être une première étape pour avoir un psychologue, pourquoi pas? Non, mais ce que je veux dire par là, surtout sur, il faut regarder l'IA pour ce que c'est, à savoir notamment des algorithmes. Faut pas oublier, voilà, que cette IA, elle sort pas de nulle part, que quelque part, elle est nécessairement façonnée par l'homme, par les données, par les algorithmes qu'on crée derrière. Et ces algorithmes, ils créent des biais, ils créent des tendances. Et moi, c'est ça que j'aimerais remaîtriser. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un véritable enjeu économique à faire en sorte. Je comprends tout ce qui a été dit précédemment, mais aujourd'hui, si on veut véritablement agir contre, ou en tout cas pour diriger l'IA dans le bon sens, on peut pas juste l'arrêter. Et on peut pas juste mener une révolution qui soit morale ou juridique. Je pense que le meilleur moyen d'agir, ça reste quand même un moyen aussi économique et industriel pour essayer de faire en sorte que nous-mêmes, nous soyons capables de façonner ces IA et qu'on rappelle à chacun que ce sont avant tout des machines.
Et ça me fait un petit peu penser au débat qu'on avait au moment de Google où on nous disait, quand on était jeunes, aller sur Quant, le réseau social français qui en fait ne fonctionnait pas du tout. C'est pas pour du tout critiquer l'industrie française, puisqu'en plus les chiffres sont très bons. Hein. La France en Europe est plutôt un bon acteur de l'IA, hein, plus de 600 startups, des milliards d'euros qui sont levés.
Des emplois qui sont créés, non mais effectivement, en tout cas...
On est très fort sur le secteur de la santé également, j'aimerais bien qu'on en dise un mot quand même, Maya Noël, avec vous. Peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, de ce que j'ai compris moi, et j'aimerais bien vous entendre ensuite, la santé c'est par exemple le fait qu'une IA par rapport à un chirurgien va pouvoir scanner des milliers en temps réel de radios et donc déceler plus facilement par exemple un cancer ou une cellule grave.
Effectivement, ce que va permettre le traitement de données massifs, et donc l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir aller plus loin que peut-être ne peut les compétences humaines. Vous parliez de chirurgien, effectivement, une machine avec de l'IA va pouvoir permettre de faire des opérations très minutieuses sans trembler, parce qu'effectivement, la machine peut être plus efficace à cet endroit-là. On a aussi la possibilité, à travers des biotechnologies, des medtech, d'aller, grâce à des énormes calculs, trouver des nouveaux médicaments. Donc, ça ouvre un énorme champ de possibilités, plutôt des possibilités qui peuvent être effectivement très vertueuses, très positives pour l'humain. Et effectivement, on est assez fort en Europe et notamment en France sur le volet médical parce qu'on a notamment des très bons médecins qui réfléchissent à des bons usages de l'IA. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que l'usage. Et c'est là où la notion d'industrie long terme est très importante. C'est qu'une IA, donc c'est ce que vous voyez par exemple avec un ChatGPT, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a des données qui sont stockées, il y a de la puissance de calcul, il y a de la matière première, il y a de l'énergie. En fait, c'est une chaîne de valeur totale. Et le sujet qu'on a, nous, aujourd'hui, en France et en Europe, c'est qu'à tous les niveaux de cette chaîne de valeur, on est plutôt dépendant des autres continents. Ce qu'il faudrait, c'est se réapproprier cette chaîne de valeur en intégralité. C'est être capable d'avoir nous-mêmes des matières premières, c'est être capable de faire nos puces de calcul, c'est être capable, effectivement, d'avoir nos propres données, de les stocker et de ne pas se laisser dépendant d'autres pays, notamment des US.
Est-ce que ces débats-là, Maya Noël, qu'on vient d'avoir sur les dérives, les peurs, presque les enjeux métaphysiques, vous les avez aussi au sein de l'industrie ?
Oui, c'est des réflexions qu'on a quotidiennement et la chance qu'on a quelque part, nous, en France et en Europe, c'est d'avoir d'excellents talents, des chercheurs, des cerveaux qui pensent à tout ça. Je pense qu'on peut avoir une pensée technologique très tournée vers les maths et en même temps, effectivement, avoir une vraie conscience, se poser des questions philosophiques. Et d'ailleurs, ça va souvent de pair. Et c'est parce qu'on a ces super talents que quelque part, je pense que c'est important qu'on ait la maîtrise industrielle de l'intelligence artificielle. Parce que ce sera aussi le seul moyen, quelque part, de répondre à certaines de nos peurs qui sont parfois justifiées et parfois que des mythes, des potentiels risques, parce que justement, on ne regarde pas l'IA en face.
Jacques Attali.
Beaucoup de dimensions dans tout ce qui a été dit. D'abord, je crois très important de rappeler que nous avons besoin d'ingénieurs, que les maths, c'est vraiment la science de base. Tout ce qu'on peut faire pour développer l'enseignement des mathématiques et les métiers de l'ingénieur sera crucial pour l'avenir, en particulier en matière médicale, en matière de santé, dans tous les domaines. Deuxièmement, il y a une dynamique qui voudrait qu'il y ait une toute petite groupe de l'humanité qui soit formée, intelligente, compétente, et que tout le reste, on se contenterait qu'il n'ait rien, et qu'ils ne savent rien. C'est pas plus mal. Ce seront des consommateurs esclaves. Et si on laisse se développer cette fascination par l'IA qui travaille à notre place, on aura ça. Exactement. C'est pourquoi la déconnexion est fondamentale. Il faut encourager la déconnexion. Il faut penser à ce que Gaspard écrit sans cesse. L'humanité risque de disparaître aussi parce qu'on fait disparaître par artificialisation, non pas l'intelligence, mais l'humus. C'est la même chose. C'est la dynamique diabolique de l'artificialisation qui artificialise le savoir et qui artificialise la Terre. C'est la même dynamique mortelle. Donc, la protection de la Terre et de tout ce qu'elle contient, cette toute petite couche sans laquelle la vie n'existerait plus, c'est la même question que celle de l'artificialisation du savoir. C'est-à-dire le risque que l'humain se transfère la vie, la sienne et celle de la nature, qui est au moins aussi importante que la sienne, et dont la sienne dépend, dans des machines qui feront qu'un monde d'objets, c'est un monde de mort. Bon. Et c'est ça qu'il faut à tout prix éviter. Pour l'éviter, il faut avoir retourné à la nature, mais aussi retourné à la déconnexion. Et la déconnexion et la nature, c'est le même comportement. C'est celui qui nous rappelle que nous sommes des êtres vivants et pas seulement des appendices des machines que nous avons créées.
Je rebondis parce que j'ai un exemple en tête formidable sur ce que vient de dire Jacques Attali. C'est qu'il y a un problème de pollinisateurs aux États-Unis. Il n'y a plus de pollinisateurs. Donc, on transporte les abeilles par camion entier, d'une côte à l'autre. Régulièrement, d'ailleurs, les camions ont des accidents. Il y a des millions d'abeilles qui sont rendues à la nature sauvage. En Chine, même problème. D'ailleurs, on pollinise à la main. Bon. Et le MIT a sorti un nouveau prototype pour résoudre cette crise des pollinisateurs. C'est une abeille robot qui fonctionnera avec de l'IA pour repérer les bonnes fleurs. Et donc, vous imaginez que, industriellement, c'est formidable. On va pouvoir lever des centaines de millions de dollars pour financer une start-up qui va repolliniser, alors qu'il suffirait de planter des haies dans lesquelles vous aurez des abeilles biologiques qui viendraient accomplir un travail dont le MIT reconnaît lui-même, d'ailleurs, qui sera meilleur que celle de l'abeille robot qui n'a pas encore les performances de l'abeille naturelle. Et donc, vous voyez bien qu'on essaye de résoudre les problèmes de l'artificialisation par encore plus d'artificialisation parce qu'on reste fasciné par l'intelligence et que mettre au point une abeille robot, ça demande beaucoup de science, beaucoup d'intelligence et que donc c'est très excitant et ça va permettre de lever beaucoup d'argent. Alors qu'une solution fondée sur la nature est trop simple, elle est décevante, elle est presque humiliante finalement pour l'humanité qui s'en remet à autre que lui. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème au fond d'arrogance de l'anthropocène, eh bien, on fera toujours les mêmes erreurs face aux mêmes problèmes.
Vous voulez dire quelque chose, Maya Noël ?
Non, mais je pense que je suis pas sûre que cette idée d'abeille boostée à l'IA soit une idée qui puisse venir d'Europe. Et c'est justement ça qu'on doit faire émerger, c'est une forme de voix européenne dans l'innovation, et notamment en matière d'intelligence artificielle. D'où l'enjeu, en fait, de reprendre cette maîtrise. Je veux dire, l'IA, vous l'utilisez vous-même quelque part, elle peut être vraiment utile au bon endroit. L'objectif est d'en avoir le bon usage.
Mais par exemple...
Et aujourd'hui, l'usage ne peut pas simplement être dicté parce qu'on va réguler le cadre dans lequel on doit utiliser l'IA. Je pense que l'usage, il est aussi... l'utilisation de l'IA, elle est aussi dictée par la manière dont on va construire l'IA. Et où est-ce qu'on va mettre le poids du corps, où est-ce qu'on va décider d'investir tout de même.
Oui, mais alors contrairement...
Gaspard Koenig.
Non, mais moi, je suis assez quand même friand de la solution juridique sur ces aspects-là.
Tout à fait.
Et notamment le AI Act dont nous parlions, et dont vous disiez qu'il n'était pas suffisant parce qu'il n'y a pas de solution industrielle derrière. Un point que je trouve absolument fondamental et qui, s'il était appliqué, changerait dramatiquement le monde des outils IA, c'est d'interdire les techniques, je cite, hein, qui se mettent au-dessous du seuil de conscience pour altérer le comportement.
Ouais.
C'est-à-dire qui nous font prendre des décisions subliminales, qui nous nudge, comme on dit en anglais, qui nous poussent du coude, qui est le principe même en fait de ces outils tels qu'ils sont conçus dans leur interaction avec le consommateur. Je ne parle pas effectivement des outils d'AI médicaux qui sont parfaits, ou moi j'utilise de l'AI parce que j'ai des applications pour reconnaître les plantes, PlantNet, c'est de la pure IA. Bon, mais tout ça, ça n'altère pas mon comportement, c'est très bien. Mais notre usage quotidien, ce sont généralement, c'est fondé sur l'altération des comportements et sur la captation de la valeur qui en résulte. Et si on appliquait à la lettre ce règlement, ça changerait massivement la manière dont sont conçus les outils d'IA.
Je suis parfaitement d'accord sur l'application des textes. Enfin, je vous laisse la parole juste après, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas totalement appliquer des textes comme le DSA, qui va réguler les réseaux sociaux, comme l'IA Act? C'est parce que justement, il y a un rapport de force qui est instauré, parce qu'en face, on a aussi des puissances économiques.
Il faut c'est le rôle du politique, justement.
Je suis tout à fait d'accord. L'objectif est de pouvoir, justement, reprendre cette force politique en s'appuyant sur une forme de force aussi industrielle et économique en Europe. Et c'est ça qui a été créé notre dépendance ces dernières années, c'est qu'on n'a pas su justement capter toute la valeur économique de la révolution numérique. Et il ne faudrait pas reproduire la même erreur sur la révolution IA.
Jacques Attali.
L'IA utilise depuis longtemps, depuis Google et bien avant, les connaissances qu'on a minuscules en neurosciences. Et les travaux du professeur Kahneman, qui ont été utilisés dans la publicité, qui lui ont d'ailleurs valu un prix Nobel, sur la façon dont le cerveau fait des analogies qui lui permettent de trouver bien des choses qu'il a entendues par rapport à un contexte dans lequel il était heureux, créer les conditions d'une addiction qu'on a trouvée depuis très longtemps dans la publicité et qu'on retrouve dans l'IA comme des techniques d'amorçage, d'accrochage, parce que l'IA, c'est une drogue. C'est pour ça que je parlais de l'importance de la déconnexion. C'est une drogue. C'est une drogue fascinante. Donc, si l'IA industrielle est fondamentale, si l'IA en médecine est si importante, l'IA personnelle est un danger mortel pour l'humanité. En dehors du fait qu'elle pourra devenir assez sophistiquée pour remplacer une sorte de modèle sommaire de l'intelligence et qu'on s'en contente, il y a aussi le grand risque de l'utiliser pour des choses futiles et pas pour des choses essentielles. Et donc je pense que la clé va être dans le développement de l'esprit critique, la possibilité de non seulement de développer une IA européenne, tout ça, mais pas la même que l'IA américaine ou que l'IA chinoise, qui sont des IA de totalitarisme. La société américaine est une société totalitaire, comme la société chinoise, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Mais l'importance de l'utiliser pour favoriser l'esprit critique, pour dire non, pour dire peut-être peut-on penser autrement, puisque l'IA n'est qu'une façon de nous dire ce que tout le monde a pensé avant nous. C'est pas un instrument de créativité. Ça nous dit il faut développer chez l'être humain sa seule originalité, c'est dire non, c'est critiquer, c'est penser autrement, c'est sortir du cadre de pensée naturel pour aller ailleurs. La créativité, c'est penser autrement et ailleurs.
En même temps, si tu mangeais pas tout le monde...
Je suis un loup. Qu'est-ce que tu veux que je mange?
Ah déjà, pas des gens. Des carottes, des champignons, des fruits, des légumes. Quoi.
Ça chasse comment, les légumes?
Laisse tomber, là.
Car aujourd'hui, je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé.
T'es sûr?
Non, non, mais il n'y a pas de... Tel que je veux me
Je ne voulais pas qu'on se quitte, et puis ça me fait la transition toute trouvée avec ce que vous venez de nous dire, Jacques Attali, sans ce petit conte de Noël qu'on a tous peut-être vu en cette fin d'année, mais vraiment je vous invite à le regarder, hein. C'est un studio garanti sans IA, français, Illogic Studio, qui a fait la publicité d'un grand groupe de supermarchés français, et qui a fait le tour du monde avec Claude François, le mal-aimé. Emma Karenini.
Moi, ce qui m'a frappé dans les discussions qu'on a eues suite à cette vidéo, c'est qu'on a tout de suite dit c'est fait main, c'est pas IA. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui est fait par l'homme maintenant devient un argument commercial. Et qu'est-ce que ça dit aussi sur la culture ? C'est qu'on a peut-être le sentiment que progressivement notre culture est colonisée par les contenus IA. On le voit d'ailleurs sur les plateformes de musique. Deezer, je crois que c'est 28% des contenus de musique qui sont générés par IA, même sur LinkedIn, enfin. Et donc on a ce sentiment qu'on va vers une culture qui progressivement intègre et colonisée par ces contenus artificiels, et on a envie à chaque fois de mettre en avant le fait que c'est fait par l'homme.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à cet esprit public, le dernier de l'année 2025, et on passe à vos coups de cœur. Gaspard Koenig, vous avez eu le temps de réfléchir à une recommandation pour nos auditeurs.
Ben oui, j'ai été emporté par un roman jusqu'au milieu de la nuit, ce qui m'était pas arrivé depuis un moment. Et alors c'est un roman dont je peux garantir qu'il est fait main, parce qu'il est fait avant même la machine à écrire, puisque c'est La Terre de Zola, livre assez peu connu de Zola, mais absolument hallucinant. De crudité, d'abord, on a l'impression que c'est du Houellebecq. Et puis la manière de construire des scènes est toujours cathédralesque. Et c'est très noir, je vous préviens, c'est très noir, mais c'est encore plus addictif qu'une IA.
Maya Noël.
Moi, je vais recommander un livre que j'ai relu récemment, et je suis contente que Monsieur Attali parle de Barjavel. J'ai relu La Nuit des Temps.
Sublime.
Et je trouve ce livre vraiment puissant, donc je le recommande. Après, je sais que le nouvel an arrive, donc c'est le moment des bonnes résolutions. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, malgré l'IA, je pense qu'il ne faut pas oublier notre pouvoir en tant qu'humain, donc ce pouvoir de dire non et ce pouvoir de choisir quelque part. Et quitte à utiliser l'IA, je pense qu'il faut choisir d'utiliser une IA qui va apporter de la valeur à la France, donc ne pas oublier en tant que consommateur qu'il n'y a pas que ChatGPT dans la vie.
On vous a bien entendu sur ce sujet. Emma Karenini.
Alors, je lis beaucoup d'histoires à mon fils qui a un an. Je redécouvre les contes, et à cette occasion, je suis tombée sur un petit ouvrage, un texte pas très connu de Tolkien qui s'appelle Du conte de fées. Et j'ai adoré parce que c'est une réhabilitation du conte, de l'imaginaire. Il dit que le conte, c'est un art pour les adultes. Et outre le fait que ça préfigure toute la trilogie du Seigneur des Anneaux, j'ai trouvé que c'était une belle accroche pour le réenchantement du monde, et j'ai beaucoup aimé.
Fait main voilà. Également, fait par l'homme, garantie fait par l'homme. Allez-y, Jacques Attali.
Moi, je juste l'apologie du spectacle vivant, qui est véritablement ce qui nous rattache à l'humanité, qui est la vraie création. Donc, allez au théâtre, allez à l'opéra. J'ai vu la semaine dernière un extraordinaire opéra, Robinson Crusoe et d'Offenbach, dans une mise en scène fantastique. La salle était jubilatoire, c'était merveilleux. Allez au théâtre, allez à l'opéra.
Et moi, mon coup de cœur, c'est un jeu vidéo, un français également. Je pense que vous en avez entendu
Clair
parler.
Obscur.
Clair Obscur, Expédition 33, c'est sublime. Ça va être adapté d'ailleurs au cinéma, a priori. Ils ont gagné les 9 Oscars du jeu vidéo cette année, et on les félicite. Merci infiniment de nous avoir suivis en ce dimanche. C'était la dernière émission de 2025. On se retrouve le 4 janvier. Merci à tous les quatre d'avoir été là. Maya Noël, directrice générale de France Digital, Jacques Attali, Économise, votre dernier ouvrage collectif que vous avez dirigé chez Flammarion France 2040. Emma Karenini, merci à vous, agrégée de philosophie. Votre dernier livre, Le Soleil, Mythe, Histoire et Société, aux éditions Le Pommier. Et Gaspard Koenig, merci à vous.
Merci.
Quel livre on peut citer, celui qui va...
Il est dans France 2040. Il est un des auteurs
de... En plus, il est là, et surtout, vous faites paraître un livre, vous, le 9 janvier.
À quoi
voilà. À quoi l'eau, qui elle nous sert beaucoup pour l'intelligence artificielle. N'oubliez pas, lisez au lieu de scroller, c'est bien meilleur pour la santé. À très vite.